autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour remonter le temps sur les traces ADN de nos ancêtres qui ne sont pas toujours ce que l'on croit. Comment l'étude de l'ADN fossile, de l'ADN ancien, la paléogénétique et ses progrès fulgurants bouleversent toutes nos idées reçues sur l'évolution et les migrations humaines, mais aussi animales et végétales, nous obligeant à revisiter tout notre album de famille, bien plus métissé qu'on ne voulait le penser. C'est une véritable aventure scientifique et humaine, une enquête aussi dans les profondeurs du temps, avec ses rebondissements et ses surprenantes découvertes à partir de brins d'ADN retrouvés dans des fragments d'os ou de poils que nous avait fait partager le paléogénéticien Ludovic Orlando en février dernier. Pionnier de sa discipline, Ludovic Orlando a notamment séquencé le plus ancien génome connu à ce jour. Il nous explique comment et pourquoi dans son ouvrage L'ADN fossile, une machine à remonter le temps, paru chez Odile Jacob. Nous vous proposons de réécouter cet entretien original et originel autour de la question comment remonter le temps et tous nos préjugés grâce à l'ADN fossile. Bienvenue.
Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Les scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat.
On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif.
L'homme de Cheddar, ancêtre des Britanniques, avait la peau noire. Voilà qui en a surpris plus d'un, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est en 2018. Et ce n'est pas fini, vous avez d'autres nouvelles inédites et bouleversantes du passé à nous faire partager. Ludovic Orlando, bonjour.
Bonjour Caroline, merci de me recevoir.
Merci d'être en direct avec nous en studio sur les traces donc de l'ADN fossile, une machine à remonter le temps. Ça, c'est le titre de votre ouvrage publié chez Odile Jacob et dont nous avons un exemplaire à offrir à nos auditeurs dans lequel vous nous faites partager, donc Ludovic, cette aventure scientifique et humaine en marche, hein, cette science d'avenir qui nous révèle un autre passé essentiel pour notre présent. Je veux parler de la paléogénétique dont vous êtes un des pionniers. Vous êtes docteur en paléogénétique, directeur de recherche au CNRS. Vous dirigez le centre d'anthropologie et de génomique de Toulouse à l'université Paul Sabatier. Précisons que vous êtes l'auteur du séquençage du plus ancien génome connu à ce jour, celui d'un cheval, datant de 700 000 ans, un exploit impensable, irréalisable il y a encore quelques années, et qui vous permet de reconstituer toute l'histoire de la domestication du cheval et donc des hommes qui les ont chevauchés, ces chevaux, on va y venir. Mais arrêtons-nous d'abord donc sur la couleur de nos ancêtres en Europe, parce que ça vaut vraiment le détour. Après l'homme de Cheddar à la peau foncée, aux yeux bleus, vous venez de faire une nouvelle découverte en France, cette fois avec vos collègues, publiée dans la prestigieuse revue scientifique Current Biology. Là encore, nos ancêtres européens n'avaient pas, comment dire, la couleur attendue par le Rassemblement national, c'est ça ?
D'une certaine manière. Et en effet, on se situe au cœur de l'Europe, mais en réalité au cœur du bassin parisien, à quelques pas d'ici en réalité, dans le bassin de la Marne. Et en réalité, on trouve que des personnes qui vivaient il y a 5100 ans de cela, eh bien certains d'entre eux étaient un petit peu comme l'homme de Cheddar qui a vécu 5000 ans avant eux, de couleur de peau très foncée. Ça, on peut le révéler parce que dans l'ADN, vous savez, il y a des gènes qui codent pour certaines fonctions biologiques. Certains, en fonction du message qu'ils portent, vont conditionner le fait que vous allez développer de votre vivant une peau plus ou moins claire, une peau plus ou moins foncée, des cheveux d'une couleur plus ou moins claire, et de même pour la couleur des yeux. Eh bien, séquençant cette information-là, on est capable donc d'en déduire la couleur de peau des individus du passé, alors même que la peau n'est elle-même jamais fossilisée.
C'est ça qui est complètement fou. Qu'est-ce que c'est que cet ADN ancien? Combien de temps est-ce qu'on peut le retrouver et en dire quelque chose? Comment est-ce qu'il nous permet comme ça de revisiter tout notre album de famille, véritablement, hein?
Ah, c'est littéralement ça. Donc, jusqu'à quand est-ce qu'on peut le retrouver? Eh bien, là, les gens techniques qui connaîtraient le côté technique comme moi pourraient peut-être se chamailler, mais on va dire à la louche Jusqu'à environ 1 million d'années, je pense que les modèles de préservation de cette molécule-là s'accorderaient à dire ça, dans des environnements qui ne seraient pas, vous voyez, le cœur du Sahara, dans des airs très chauds, mais plutôt dans des environnements très très froids, parce que le froid, eh bien, ça préserve aussi bien vos denrées alimentaires que les molécules organiques qui la composent, c'est-à-dire en particulier l'ADN qui les constitue. Donc on va dire dans des environnements où il a fait assez froid, pensez par exemple au froid de l'Arctique, à ce moment-là, on va pouvoir retrouver eh bien, peut-être des vestiges du passé, de 700 000, au-delà, 800 000, 100, 1 million d'années, qui contiennent tout le message dont vous avez fait, auquel vous vous êtes référé.
C'est ça, tout ce message qui permet, vous l'avez dit, c'est une jolie formule, hein, vous le dites dans cet ouvrage, de redessiner les contours du passé, donc le visage du passé. C'est une vraie révolution. Comment se fait-il qu'on est allé aussi vite? Est-ce qu'autrefois on n'arrivait pas à récupérer cet ADN? On n'arrivait pas à le lire? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse aujourd'hui, grâce à vous, hein, remonter le temps comme ça? Enfin, c'est une enquête policière, mais c'est fascinant.
Alors, la discipline commence, on va dire, il y a plus d'une trentaine d'années de ça. On est en 1984, quoi. Et ce que les gens font à cette époque-là, c'est utiliser quelques techniques pour récupérer une toute petite partie de l'ADN de tissus préservés pendant quelques siècles, à quelques milliers d'années. Quand je dis une toute petite partie, il va falloir prendre une image ici. Imaginez-vous un livre avec l'histoire que vous préférez à l'intérieur de ça. Mm-hmm. Ce qu'on était capable de faire il y a 30 ans, c'était peut-être de lire un mot. Et donc, il fallait se reconstituer la totalité de l'histoire sur la base d'un mot que vous auriez pris à un endroit précis de ce livre-là. Donc, évidemment, on comprend bien qu'aujourd'hui, on est capable de voir l'ensemble des pages, l'ensemble des mots dans leur intégralité. Et ce faisant, on est donc capable d'avoir une meilleure compréhension de ces individus, ces hommes, ces femmes, ces animaux, ces plantes, ces virus, ces bactéries, bref, ces êtres vivants qui peuplaient notre planète jadis.
Donc, c'est vraiment, oui, pouvoir relire tous les êtres vivants, puisque l'ADN, tous les êtres vivants, non, pouvoir remonter le temps et pouvoir aussi peut-être aller retourner dans des collections parce que, au fond, l'ADN il a été recueilli même quand on ne le savait pas.
Exactement. Donc, en réalité, vous avez des vestiges de type, on va dire, des fossiles, par exemple des dents fossilisées, des ossements fossilisés.
Les paléogénéticiens aiment bien les dents, hein. Il y a le tartre des dents,
parce que vous savez, les hommes préhistoriques et leurs femmes ne se brossaient pas les dents la plupart du temps. Donc, c'est un matériau qui est très très riche à la fois en ce qui est le résidu de repas, par exemple, mais également, vous savez, toutes ces flores microbiennes que l'on a au niveau de notre tractus alimentaire, en réalité. Donc, on est capable aujourd'hui de regarder ça. Vous me posiez la question de, qu'est-ce qu'il y a eu comme révolution? Donc, je disais un mot à l'époque, aujourd'hui, on est capable de voir le livre, mais je ne vous ai pas dit comment est-ce qu'on lisait l'ensemble du livre. Et il y a eu une révolution technologique qui n'est pas du tout liée à une avancée dans le domaine de l'archéologie, mais plutôt dans le domaine de la médecine, des sciences de la santé, qui a été le développement des séquenceurs dits de nouvelle génération. Ce sont des séquenceurs qui sont capables de lire la molécule d'ADN avec une vitesse incommensurable. Donc là où il a fallu 20 ans pour séquencer le premier génome humain d'individus qui vivent aujourd'hui, ces séquenceurs-là, en à peine une poignée de jours aujourd'hui, sont capables de séquencer le génome de plusieurs dizaines d'individus. Donc l'échelle est de cet ordre. Les séquenceurs sont devenus très, très, très rapides, très, très, très performants et nous permettent de lire les molécules d'ADN de manière quasiment industrielle, si vous voulez. Donc la grande révolution, elle était là.
Et cette grande révolution, elle a surtout été là, enfin, effectivement, pour les paléogénéticiens, pour les archéologues, pour ceux qui s'intéressent au passé, parce qu'elle nous a montré une diversité humaine qu'on n'imaginait pas. C'est grâce à cette révolution de l'ADN ancien qu'on sait qu'il y a eu de nombreuses espèces humaines sur Terre autrefois. Il n'y en a plus qu'une aujourd'hui, mais il y en a eu plusieurs qui ont cohabité, qui a eu du métissage. Ça a permis une relecture totale de l'évolution de nos humanités, je peux le dire comme ça.
Complètement. Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'homme de Cheddar, on parlait de ces individus de la fin du néolithique du bassin parisien qui aussi avaient la peau foncée. Donc, ça revisite d'abord l'image que l'on se fait de nos aïeux, de nos ancêtres. Mais au-delà de ça, vous l'avez dit vous-même, dans des temps plus profonds, on découvre des lignées de l'arbre évolutif humain que l'on ne soupçonnait même pas. Par exemple, l'homme de Denisova en est un très très bel exemple. On voit même d'ailleurs dans la molécule d'ADN les contributions de lignées humaines qu'on appelle fantômes, c'est-à-dire au sens où on n'a même pas encore trouvé leurs fossiles, mais on sait qu'elles étaient présentes, ces lignées-là, parce que le message porté par l'ADN finalement ne ressemble à rien de connu.
Ah, c'est ça qui vous fait dire qu'il y avait donc d'autres espèces. Autour de la question comment remonter le temps grâce à l'ADN fossile et jusqu'où, le grand maître de la discipline, celui qui a séquencé le génome de Néandertal, mais aussi découvert celui des Denisoviens, de cette autre espèce humaine dont vous venez de parler, c'est le professeur Svante Paabo du Max Planck Institute, que vous citez évidemment dans votre ouvrage « L'ADN fossile, une machine à remonter le temps ». Vous l'avez rencontré, vous avez travaillé évidemment, avec lui sur une dent néandertalienne. Nous aussi, on a eu la chance de le rencontrer. Je propose de l'écouter, nous raconter comment, à partir d'une phalange, l'ADN ancien lui a permis de remonter le temps jusqu'à une nouvelle espèce inconnue, donc au bataillon. Une découverte en plusieurs temps, qui a commencé en 2010, puis en 2012. Svante Paabo nous la faisait partager ici même, dans ce studio, en 2015.
Tout d'abord,
ça a été une des plus grandes surprises que j'ai connues dans ma carrière, cette découverte. Il s'agissait d'un minuscule bout d'os, la dernière phalange du petit doigt d'un auriculaire. Et on était convaincus que ce serait soit un néandertalien, soit un homme moderne. Et quand on a séquencé son ADN, on s'est aperçu que ce n'était ni l'un ni l'autre, mais qu'il s'agissait d'un cousin lointain, éloigné des néandertaliens. Qui avait dû se séparer 400 000 ans auparavant. Ce serait donc comme un cousin, là encore, ou un parent très éloigné. Et il se trouve qu'on retrouve aussi leur patrimoine génétique en Asie, notamment aussi dans les populations du Pacifique. Donc, si vous avez vos racines en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Australie, eh bien, 5% de votre ADN provient des Denisoviens.
Et tout ça à partir d'un quoi, d'un fragment de phalange de l'auriculaire, c'est ça? Comment on travaille là-dessus?
Yes, it's of course the case that if you can sequence a genome to great
en fait,
detail,
si l'on arrive à séquencer en détail un génome, on ne trouve pas qu'un seul génome dans un individu, mais deux. Il y a celui qu'il a hérité de sa mère et celui qu'il a hérité de son père. Par conséquent, vous avez un échantillon de deux génomes sur cette population. Par conséquent, vous pouvez leur faire dire quelque chose sur les variations génétiques au sein de cette population et donc l'histoire génétique de cette population.
Est-ce que vous pensez, Svante Paabo, que vous pourriez tomber comme ça sur d'autres petits fragments d'os et arriver à déchiffrer d'autres génomes? Enfin, qu'on en est qu'au début de cette recherche paléogénétique de nos origines?
Yes, if you would have asked me 5 years ago.
Oui. Bon, si vous m'aviez posé la question il y a 5 ans, je vous aurais dit non, on sait l'essentiel de ce qu'on peut savoir. Mais depuis la découverte des Denisoviens, mon esprit s'est ouvert à la possibilité que l'on puisse trouver d'autres espèces archaïques à l'avenir. La Chine est un territoire passionnant à explorer et on va sûrement au cours des fouilles faire d'autres découvertes.
D'autres découvertes, vous partagez, j'imagine, l'enthousiasme et les propos de Svante Paabo. Ludovic Orlando, on n'en est qu'au début.
On n'en est évidemment qu'au début. C'est ça qui est assez grisant avec cette discipline. Oh, c'est que carrément. De jour en jour, on découvre l'étendue de ce qui nous reste à découvrir, si je puis dire. En réalité, l'étendue de notre méconnaissance du passé. Et très souvent, le sous-titre, c'est que notre imagination a été finalement assez limitée. Et le passé, à chaque fois qu'on le regarde d'un peu plus près, il nous surprend. Il nous surprend dans sa diversité la plupart du temps.
C'est ça, dans sa diversité. Qu'est-ce qui vous surprend le plus? C'est aussi tous ces métissages. On l'a dit, vous avez travaillé avec Svante Paabo, notamment sur une dent néandertalienne. À chaque fois, on trouve des métissages entre ces différentes populations humaines aussi, des mouvements qu'on n'attendait pas. C'est quoi? Elle est plus mouvementée, plus buissonnante, plus métissée, cette histoire des humanités.
Voilà, c'est-à-dire, vous avez dit le mot sacré, si je puis dire, c'est-à-dire le pluriel. Les humanités, pas l'humanité singulière, quoi. Donc, à chaque fois que l'on regarde, on découvre des histoires de mélange entre certaines populations. Et on découvre ainsi que certaines populations, à telle époque, sont en fait le fruit d'un brassage entre telle et telle autre population. Mais si on regarde un petit peu plus loin, soit dans l'espace, soit dans le temps, des fois, on découvre qu'il n'y a pas les brassages qu'on aurait pu supposer. Et qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire qu'en fonction des contingences, certaines populations se rencontrent, d'autres s'ignorent. Certaines vont dominer les autres, d'autres, au contraire, vont être plus pacifiques. Et bien, en fonction de tous ces événements, de tous ces phénomènes, il va y avoir ça qui va s'inscrire dans votre ADN, si vous voulez, dans la variabilité que portera l'ADN de vos descendants.
Il y a du mouvement dans tous les sens, on l'a dit, du métissage. Vous avez de très jolies têtes de chapitre dans cet ouvrage, notamment, puisqu'on parle beaucoup de sortie d'Afrique, vous dites qu'il y a peut-être eu aussi des allers-retours, et vous dites finalement... Et l'Afrique et les Africains dans tout ça, parce qu'on a beaucoup étudié Néandertal, métissé avec les hommes modernes en Europe, et finalement les hommes modernes en Afrique, on ne sait pas grand-chose. Alors, il y a là encore un champ de recherche incroyable.
Il y a un champ de recherche incroyable, d'abord pour les hommes et les femmes qui vivent en Afrique aujourd'hui, pas simplement celles et ceux du passé. Très souvent, les populations qui ont été le plus séquencées parmi les populations vivantes sont celles d'Europe, celles d'Amérique du Nord, et maintenant de plus en plus, en effet, celles d'Asie. L'Afrique est un champ de découverte immense pour le futur, parce qu'on sait tous que c'est l'endroit où notre espèce est apparue. C'est également l'endroit où la plus grande diversité génétique humaine est encore présente sur la planète.
C'est ça qui est assez étonnant, qu'on a du mal à comprendre ou à imaginer. C'est sur le continent africain qu'il y a la plus grande diversité génétique humaine aujourd'hui.
Si notre espèce est apparue là-bas, ce qui est un fait scientifique, alors il y a eu plus de temps d'évolution sur place, d'une certaine manière. Et ensuite, les populations qui... sont sortis d'Afrique et ont peuplé ainsi le reste d'abord de l'Ancien Monde, puis du Nouveau Monde, ne sont en fait que des sous-ensembles de ces premières populations et en fait n'ont embarqué avec elles qu'une sous-partie de la diversité génétique qui était présente à l'époque. Évidemment, elles ont continué toutes à évoluer, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord qu'en Afrique, et la somme de toute cette évolution crée la diversité humaine génétique que l'on connaît aujourd'hui. Donc l'Afrique, en effet, beaucoup de choses à découvrir sur les populations qui vivent aujourd'hui, mais également leur passé. À ce jour, il y a à peu près, on va dire, une grosse dizaine d'hommes et de femmes du passé qui ont eu leur génome séquencé par la paléogénétique. Vous voyez, la taille du continent africain, c'est immense. Sa diversité écologique, on parle des déserts parmi les plus chauds de la planète, mais le mont Kilimandjaro est aussi en Afrique, donc on traverse des écologies complètement différentes. Imaginez donc tout ce qu'il va pouvoir y avoir à découvrir sur la diversité génétique qui accompagnait l'émergence de ces populations.
Ça donne le tournis. La génétique qui permettra donc de redonner un visage à nos ancêtres, d'élargir notre perspective, on l'a compris, dans le temps comme dans l'espace, en brisant au passage pas mal d'idées reçues sur notre humanité, on l'a dit, métissée, buissonnante et présente désormais une seule humanité sur toute la Terre, sous la forme donc d'Homo sapiens. Allez, une seule espèce unique humaine sur Terre, ça fait jamais de mal de le rappeler. En écoutant Claude Nougaro, c'est votre choix musical, Ludovic Orlando. Logique pour un chercheur toulousain, mais c'est pas la ville rose qu'on vous passe entre les oreilles. Bah oui, c'est Armstrong, évidemment.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien de lui là-haut, les anges, zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Qui suis blanc de peau. Yeah. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc. On voit surtout du rouge, sans l'avenir faut qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. I'm Armstrong un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia,
Alléluia, Armstrong, Claude Nougaro sur RFI. Merci pour ce choix, Ludovic Orlando. Autour de la question, comment et jusqu'où remonter le temps grâce à l'ADN fossile? Je rappelle que vous êtes paléogénéticien, directeur de recherche CNRS à l'Université de Toulouse et que vous venez de publier un ouvrage formidable, L'ADN fossile, une machine à remonter le temps, aux éditions Adil Jacob. Et vous ne serez pas déçus du voyage, car cet ADN fossile permet non seulement d'éclairer d'un jour nouveau nos ancêtres, hein, ceux de l'humanité, mais aussi ceux des autres vivants, animaux, végétaux qui nous entourent, mais aussi évidemment, et ça nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, d'éclairer d'un jour nouveau les virus, les microbes, les épidémies du passé. Et là encore, il y a des surprises. L'ADN remet beaucoup de choses en question, jusqu'où, hein, car vous adoptez toujours, Ludovic Orlando, une démarche pluridisciplinaire. La génétique seule n'explique pas tout, hein. Le puzzle est bien sûr toujours plus complexe. Mais autour de la question de cet ADN ancien, de ces métissages qui font notre génome et ceux des épidémies, nouvelle question pour vous, soulevée par l'épigénéticienne Déborah Bourkis, directrice de recherche à l'INSERM.
Je me demandais du coup, comment on sait qu'on a de l'ADN ancien d'espèces humaines disparues? Combien ça influence la susceptibilité aux maladies? On avait parlé de, il y a eu ces études lors de la crise Covid qui montraient que les populations africaines pouvaient être moins touchées par l'infection Covid, peut-être parce qu'elles avaient moins d'ADN néandertalien qui pouvait conférer une susceptibilité. Est-ce que ça a été confirmé? Est-ce qu'il y a d'autres exemples? On sait qu'il y a des phénomènes adaptatifs, par exemple à l'altitude. Ça a été montré avec les populations tibétaines. Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples, voilà, où on peut avoir soit des adaptations, soit des susceptibilités qui sont dues à un plus ou moins grand pourcentage de rétention d'ADN d'espèces maintenant disparues?
Que pouvez-vous répondre, Ludovic Orlando?
Alors, c'est une question très très vaste. Alors, je vais essayer de serrer un petit peu mes réponses. Donc, tout d'abord, quand les gens ont séquencé le génome de l'homme de Néandertal, ils l'ont fait d'abord pour répondre à la question de depuis quand a-t-on divergé de cette humanité-là? S'est-on mélangé avec cette humanité-là? Et le travail a trouvé une réponse
à chacune de ces questions,
bien entendu. Mais très très vite, d'autres personnes que celles qui ont fait les travaux se sont emparées du génome de l'homme de Néandertal, puisque vous savez, dès lors que vous avez les lettres C, A, G, T sur l'étendue des 3 milliards de lettres qui constituent un génome, vous pouvez le comparer à votre génome, au mien, à celui de toutes les hommes et les femmes qui vivent aujourd'hui sur la planète. Et ainsi de découvrir en faisant cet exercice qu'il y avait, par exemple en Europe, des variants génétiques qui sont très très proches dans nos populations de la version qui était alors, il y a plus de 40 000 ans, dans le génome de l'homme de Néandertal. Et d'en déduire que, vraisemblablement, ces morceaux-là nous ont été légués par l'homme de Néandertal, mais qu'ils se retrouvent à de telles fréquences aujourd'hui dans nos populations, c'était le signe que, vraisemblablement, ces morceaux d'ADN n'étaient pas neutres. Ils se comportaient comme s'ils donnaient un avantage à ceux et celles qui le portaient, et ainsi d'augmenter en fréquence dans nos populations jusqu'à nous aujourd'hui. Que faisaient ces gènes-là? Eh bien, parmi les tout premiers travaux, on est au début des années 2010, les chercheurs ont trouvé que certains de ces morceaux d'ADN participaient à ce qu'on appelle l'immunité innée, c'est-à-dire cette forme d'immunité qui vous donne des défenses naturelles contre les bactéries et les virus. Donc ça, ça a été les premières classes de domaines biologiques qui ont été découverts. Le même travail a été fait en Asie. D'autres formes, d'autres variants de ces gènes de l'immunité ont été favorisés en Asie. D'ailleurs, pas tout à fait les mêmes qu'en Europe.
Peut-être qu'ils protégeaient sous d'autres latitudes, sous d'autres climats, contre d'autres pathogènes.
Contre d'autres pathogènes. On ne partageait pas nécessairement les mêmes virus et les mêmes bactéries à l'époque. Et de fil en aiguille, ce même exercice de comparaison des variants néandertaliens aux variants que vous et moi nous portons dans nos populations aujourd'hui a montré que certains variants étaient un peu plus représentés parmi les gens qui avaient des santé d'un certain type. Par exemple, certains qui développaient certains syndromes de maladie de la peau, par exemple, d'autres des formes liées à la dépression, d'autres des formes liées à des risques de devenir obèse, etc. Si bien qu'en fonction du cocktail, de la mosaïque de variants génétiques que vous portez de Néandertal, eh bien, vous allez développer une, aujourd'hui et maintenant, dans nos populations, 40 000 ans après, un certain caractère lié à votre santé. Et alors, pour revenir à cette histoire de Covid, en effet, des formes néandertaliennes sont surreprésentées. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle, si je puis dire, pour les Européens. Elles sont surreprésentées surtout en Eurasie de l'Est, donc surtout en Chine et aux alentours. Et ces formes-là sont associées, donc ces variants génétiques, ce mot qui vous vient, si vous voulez, d'un ancêtre néandertalien, si vous le portez, il va vous donner un risque de développer environ à 60% de plus une forme assez sévère de la maladie. Et donc aujourd'hui, vous le voyez bien, votre capacité à survivre à ce désastre que traversent nos sociétés aujourd'hui au XXIe siècle,
et bien...
À quelque chose qui s'est produit et même on pensait éteint depuis 40 000 ans. Donc vous voyez en quoi le passé, c'est souvent un terme que j'utilise, le passé vit en nous aujourd'hui et maintenant. Si bien que les gens qui pensent a priori que les archéologues, les paléontologues, les gens qui se tournent bref vers le passé ne s'intéressent jamais qu'au passé, en réalité l'ironie de l'histoire montre que le passé a bien des choses à nous apprendre sur le temps présent et vraisemblablement sur le futur.
C'est ça. Autour de la question comment remonter le temps, on a bien compris pourquoi on remontait le temps et au galop en plus, j'ai envie de dire, grâce à l'ADN ancien, Ludovic Orlando, vous avez vous-même, en tant que chercheur, repoussé les limites de ce temps, hein, franchement, en séquençant le plus ancien génome connu à ce jour, celui d'un cheval datant de 700 000 ans. Alors c'est insensé, c'était impossible à l'époque, et puis vous l'avez fait, et vous êtes devenu le spécialiste vraiment de la domestication du cheval, de l'étude génétique du cheval. Pourquoi le cheval? Comment vous avez fait pour remonter aussitôt? Et qu'est-ce que vous avez découvert? C'est énorme, hein, là j'ouvre un...
Alors là, on va commencer un chapitre qui est assez fascinant pour moi au moins. Donc pourquoi le cheval? Au début, je dois dire tout simplement parce que lorsque l'on retrouve il y a 700 000 ans, vous voyez, il n'y a pas de supermarché aux fossiles. Quoi. Vous trouvez le fossile que vous trouvez. Et il se trouve que celui-là, c'était un bout d'un membre inférieur d'un cheval. Et en effet, on est au début des années 2010. À cette époque-là, personne au monde, moi le premier, n'aurait jamais pensé qu'une telle prouesse technique serait possible. En réalité, pour la petite histoire, je commence l'étude presque pour montrer que ce n'est pas possible. Et c'est parce que ça
que l'ADN ne survit pas, que vous ne pourrez pas lire dedans. Hein.
Voilà, ou alors qu'il n'y en aurait pas assez. Il y a toutes de bonnes raisons de penser, imaginez, quoi, même si l'os avait été trouvé dans le Yukon, au fin fond du Canada, dans ces territoires dont le sol ne dégèle jamais, on l'appelle le pergélisol. Même si c'est donc cet immense congélateur à ciel ouvert, je ne suis pas sûr que ce que j'ai mis dans mon congélateur, s'il y avait de l'électricité pendant 700 000 ans, serait encore là dans 700 000 ans, si vous voulez. Or, c'est ce dont on parle. Bref, il y avait suffisamment de molécules qui étaient là 700 000 ans après, donc on a décrypté, pas qu'un mot, l'ensemble du livre dont je vous parlais tout à l'heure. Ce livre-là, il nous a dévoilé des tas de choses sur l'histoire des chevaux. Depuis 700 000 ans, on a appris que cette lignée-là s'est éteinte, donc de même qu'il y avait plusieurs humanités, eh bien, il y avait plusieurs manières d'être cheval dans le passé.
Ouais.
Et cette espèce-là, cette lignée-là s'est éteinte depuis. Et on a ainsi pu remonter l'exercice de ce voyage dans le temps, depuis 700 000 ans jusqu'il y a 5 000 ans au moment où on le domestique, et même jusqu'au 19e siècle, au moment où nos armées s'en servent encore, notamment dans la cavalerie.
Parce que ce qui est extraordinaire avec le cheval, sur la domestication du cheval, c'est que en retraçant à travers l'ADN ancien du cheval, vous retracez aussi notre histoire à nous, hommes, les humains, les hommes et les femmes qui ont monté les chevaux.
C'est-à-dire, donc je vous ai dit, je commence presque de manière aléatoire à travailler sur le cheval, fortuite presque. Mais ensuite, il y a la raison du scientifique qui prend le relais et de se demander qu'est-ce qu'on peut tester avec le cheval comme modèle d'étude. Et là, vous vous rendez compte assez vite que le cheval, Geoffroy Saint-Hilaire disait, c'est la plus noble conquête de l'homme. C'est l'animal qui nous a le plus accompagnés au cours de l'histoire. Dès lors qu'on l'a domestiqué, on a été capable de voyager beaucoup plus vite que simplement sur nos pattes. Donc en réalité, le cheval nous a été l'instrument de la première globalisation au cours de la préhistoire humaine, nous permettant ainsi d'aller plus vite à des centaines de kilomètres de l'endroit où on est né, et ainsi de trimballer avec nous nos gènes, nos pathogènes, c'est-à-dire nos virus, nos bactéries, notre langue, notre culture, nos outils, bref, tout ce qui fait de nous hommes et femmes, l'ensemble de notre culture et tout le reste. Donc le cheval a réécrit la dynamique de l'histoire. Et puisqu'on s'est déplacé avec lui, alors peut-être peut-on, via le cheval, comprendre l'histoire des migrations humaines en réalité. Comment se sont-elles confrontées, mélangées, comment ont-elles résisté les unes par rapport aux autres, et peut-être aussi poser la question de est-ce que certaines civilisations du passé ont eu un avantage militaire conféré par le cheval qui leur a permis de dominer certaines autres. Donc vous voyez que c'est une manière qu'un biologiste peut essayer de réécrire l'histoire, en réalité d'illustrer en tout cas l'histoire par un côté qui n'est pas celui qu'on a l'habitude d'entendre.
Surtout à partir d'un brin d'ADN dans un vieil os, je rappelle, 700 000 ans, vieil os de cheval, autour de la question que nous apprend l'ADN ancien des chevaux et jusqu'où nous entraînera cette histoire génomique de la domestication du cheval. À ce sujet, une nouvelle question pour vous, Ludovic Orlando, soulevée par l'historienne de l'environnement Valérie Chansigaud. Elle vient de publier un ouvrage de référence sur la domestication animale en général aux éditions de Lachaud et Niesley. Écoutez sa question et pour vous.
Bonjour, j'ai une petite question au généticien que vous êtes. Comment peut-on savoir à travers l'examen de génome ancien la part, prise par la sélection du comportement des animaux, puisque la domestication animale repose surtout et d'abord sur la modification du comportement, bien avant de la modification des modifications morphologiques. Comment ça peut être vu ou lu ou décrypté dans le génome ?
Votre réponse, Ludovic Orlando, que peut-on voir ? Enfin, peut-on voir autre chose dans le génome que de la biologie ? Vous avez déjà commencé à dire oui, mais comment ?
Alors, je vais commencer par être tout à fait honnête et de rappeler que tout ne s'inscrit pas dans l'ADN.
Voilà.
Et en particulier, moi, le comportement, la culture que je vais développer, mes expériences de vie que j'aurai développées après ma naissance jusqu'à ma mort, évidemment, ça ne va pas vraisemblablement s'écrire dans mon ADN. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est loin de moi l'idée de vouloir prétendre que seule
vous
la génétique
expliquer.
Va expliquer l'ensemble d'un sujet aussi complexe que la domestication animale ou même que l'histoire des hommes et des femmes du passé. Donc ça plaide de facto pour une approche pluridisciplinaire, transdisciplinaire, où l'ensemble de ce que chaque matière a apporté à l'édifice est légitime. Donc je tiens à le rappeler en premier point. Cependant, il y a des caractères que l'on développe, notamment le comportement, au sens certains d'entre nous ont une nature, on dit bien ça dans le langage vernaculaire, ont une nature peut-être à être un peu plus agressif que d'autres. D'autres sont au contraire, on dit des pattes ou des gens qui sont un peu plus, on va dire, pacifiques, vous voyez. Donc il y a certains variants génétiques que l'on porte qui vont aller préparer un terrain comportemental possible.
C'est
quoi. En particulier, un certain terrain émotif, par exemple. Donc il y a des variants génétiques qui, de même, qui permettent de conditionner la couleur de peau que vous allez avoir.
Influencer nos comportements.
Voilà,
qui vont les
influencer.
Ça.
Donc je n'ai pas dit qu'ils vont les déterminer.
Oui, oui, oui.
Parce que sans quoi, on n'aurait pas de libre arbitre et on ne serait pas les êtres doués de raison que nous sommes. Mais néanmoins, selon le terreau génétique que l'on porte, il va y avoir des choses qui ne vont pas avoir tout à fait la même nature, des potentiels qui ne vont pas s'exprimer. Ce faisant, le biologiste, il est capable, connaissant les variants génétiques portés, peut-être de prédire quel devait être la sorte d'espace comportemental que devaient développer des individus dans le passé. Avec toutes les limites que ça suppose, parce que vous voyez qu'ici, on est en termes très génériques. J'ai dit, certains sont plus pacifiques, d'autres plus agressifs, mais je n'ai pas dit à coup sûr, telle personne va se transformer
en... Il n'y a pas le gène de l'agressivité, mais on peut être plus enclin à l'agressivité.
On peut détecter donc des sortes de tendances, si vous voulez.
Et en l'occurrence, chez les chevaux, que vous connaissez si bien et que vous étudiez tellement, est-ce que ça, on peut déterminer, on parlait de couleur de peau, où on était, où les Européens, les Anglais et maintenant aujourd'hui les Français sont étonnés de savoir que leurs ancêtres étaient noirs, parfois avec les yeux bleus. Est-ce que chez les chevaux, on peut dire la même chose ou est-ce qu'on peut en déduire des comportements peut-être ?
Alors chez les chevaux, je reprends la couleur par exemple, puisque vous venez d'en parler, la robe des chevaux, vous savez, il y a ces fabuleux Appaluzza, ceux qui ont une allure de robe de dalmatien, on va dire, pour ceux qui connaissent plus les chiens que les chevaux. Mais il y a des alezans. Les déterminismes génétiques qui codent pour ces caractères biologiques-là sont connus, si bien que moi, dans l'ADN, je suis capable d'aller regarder à tel endroit du génome et prédire quelle était la robe d'un cheval dans le passé. Et ce qu'on a appris par ces travaux, qui ne sont pas que les nôtres d'ailleurs, mais qui sont des travaux de plusieurs équipes, ça a été de dire qu'en fait, il y a eu plusieurs modes. De même qu'on a des modes vestimentaires, la robe des chevaux a eu ses modes. Il y a eu des chevaux, par exemple, je parle parler des Appalous, ceux qui sont tachetés, eh bien, ils étaient, sachez qu'ils étaient plutôt populaires au début de l'âge du bronze, puis ils sont tombés en désuétude au cours de l'âge du fer, puis remontés un petit peu sur le devant de la scène un peu plus tard. Les Alzans, dont je viens de parler, eux ont commencé à avoir pas mal de succès à partir de la seconde moitié du Moyen-Âge. Donc on voit là comment les éleveurs du passé n'étaient jamais que à la recherche d'une performance, peut-être le cheval qui courait très vite, mais au contraire, se servaient de la diversité biologique pour essayer d'assumer des modes, des envies. Et on comprend donc ainsi comment on a accès non pas qu'à l'éleveur dans son travail agronomique de fabrique d'un animal peut-être plus performant, mais au contraire d'un éleveur avec ses sentiments et finalement qui laisse parler à ceux qui l'intéressent le plus dans l'animal avec lequel il ou elle a eu à interagir dans le passé.
Puis ça donne évidemment des couleurs, enfin, à notre passé, ça donne des couleurs à ces cavaliers. On pourrait s'arrêter sur les fameuses invasions barbares, qui n'ont peut-être pas été si barbares que ça, et sur ces peuples Yamas, et on a encore tous des traces dans nos gènes, hein, de ces cavaliers-là.
Nous, Européens, oui. Alors, le débat sur le fait qu'ils soient cavaliers est encore assez cru. Mmh. Ce qui est assez établi aujourd'hui, c'est que nous, Européens de l'Ouest, nous portons une bonne proportion de nos variants génétiques qui nous est hérité d'ancêtres venus des steppes, vraisemblablement un peuple cavalier, mais surtout des nomades qui avaient des chars à bœufs, en réalité, qui se déplaçaient à chars à bœufs, avec quelques chevaux néanmoins en même temps. Et ces gens-là, on nous ont transmis leurs gènes, si vous voulez, il y a à peu près 4800 ans de cela pour ce qui est de l'Europe de l'Ouest. Un peu plus tardivement.
Précis, hein.
Oui, c'est-à-dire que l'ADN, il a cette vertu-là, c'est qu'il peut enregistrer de génération en génération la quantité d'ADN qui vous est transmis, parce qu'à vos enfants, vous allez transmettre la moitié de vos gènes, votre époux va transmettre l'autre moitié, et de génération en génération, ainsi, le travail de division par deux s'opère, et ainsi, on peut donc se servir à rebours de l'ADN comme une sorte de chronomètre qui nous signe depuis quand ces populations se sont mélangées.
Et puis, on peut aussi se servir de l'ADN pour déterminer le sexe, et là encore, briser quelques-unes de nos idées reçues, notamment sur les guerriers vikings et les guerrières vikings, hein,
c'est ça,
les Corlando.
Moi-même, je vais me mettre sur le devant de la scène, moi-même, quand je pense à un viking, je pense souvent à un guerrier. Et c'est vrai que, parce que je suis un pur produit de la culture occidentale peut-être, je me prends au jeu de pas forcément penser à des vikings guerrières. Or, il y a cette sépulture qui a été découverte il y a maintenant plus d'une cinquantaine d'années, qui était l'archétype de ce que devait être un guerrier viking. Il avait tous les atours de ce que devait être un guerrier. Des osselets qui permettaient d'être stratège de guerre, de prédire comment la stratégie de la guerre elle-même. Il y avait les armes, il y avait les chevaux sacrifiés à côté de la tombe du défunt, et il ne pouvait pas s'agir d'autre chose que d'un homme en réalité. L'ADN arrive là-dessus et vous savez, les filles ont deux chromosomes X, les garçons ont chromosomes X et chromosomes Y. Donc en fait, pour l'ADN et pour un généticien, déterminer le sexe d'un individu passé, c'est vraiment facile, pourvu qu'il y ait de l'ADN. Et patatras, c'est une femme qui était enterrée là et non pas un homme. Et de revoir ainsi toute l'image folklorique que l'on se fait de ce que devaient être les gens au combat dans le passé.
Oui, il y a de quoi bousculer pas mal de nos certitudes. On ne peut plus se fier à rien. Et on continue de s'interroger autour de la question de l'ADN fossile comme machine à remonter le temps et toutes nos certitudes à l'écoute d'un groupe de chanteurs mongols qui allient, ça devrait vous plaire ça, les chants de gorge du passé, donc traditionnel au rock'n'roll. Il s'appelle The Who et c'est tout de suite sur RFI. We'll be right back. gorge, version rock'n'roll avec The Who, groupe mongol qu'on vous a peut-être passé entre les oreilles quand vous étiez en Mongolie, Ludovic Orlando, travailler sur les chevaux.
Oui, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois dans ce pays car mes travaux sur les chevaux m'ont évidemment amené là-bas. Hein. C'est l'archétype du monde, de l'empire du cheval. Il y a plus de chevaux en Mongolie qu'il y a d'hommes et de femmes mongoles en réalité, donc plus du double. Donc si on veut essayer de comprendre l'histoire des chevaux, il faut passer par la Mongolie.
Et ça permet aussi de comprendre l'histoire des hommes. Vous êtes venu d'ailleurs jusqu'ici avec des dents de cheval. Vous m'avez dit, elles sont assez récentes. Elles ont combien d'années?
Je crois que c'est les plus vieilles que j'ai aujourd'hui sous la main, si je puis dire. Elles ont quelque chose comme 3 à 4 000 ans.
Ah, tout de même. Et elles viennent d'où?
Donc celles-ci, elles viennent d'Iran. C'est une collègue qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, Marjane Machour, qui me les a confiées pour qu'on travaille ensemble sur... Elle s'intéresse à la morphologie de ces dents et aux espèces qui peuplaient ce territoire-là dans le passé. Moi, avec l'ADN, je vais pouvoir dire l'ensemble des choses que je vous ai racontées. Et ainsi, ensemble, on va essayer de mieux comprendre quelle est l'origine de ce cheval dans ce territoire-là du monde.
Entre passé, présent et futur, on remonte l'espace et le temps sur les traces de l'ADN. En votre compagnie, Ludovic Orlando, vous êtes paléogénétique. Autour de la question comment remonter le temps, donc sur les traces de cet ADN ancien et surtout jusqu'où. Il a parfois été question, ça je pense que ça ne vous réjouit pas, de faire revivre, grâce à la paléogénétique, des espèces disparues. Alors sans remonter jusqu'aux dinosaures, parce qu'a priori ça c'est carrément pas possible, ça soulève tout de même de sacrées questions éthiques sur lesquelles vous interroge le philosophe Frédéric Worms, qui était récemment notre invité.
Pour moi, la principale question de l'ADN fossile, c'est que c'est pas un fossile comme les autres, il comporte une possibilité de faire revenir le passé dans le présent. Pas simplement d'aller y voir, d'aller faire des enquêtes aussi. Il y a aussi des enjeux moraux, politiques. On sait que beaucoup de descendants d'esclaves aux États-Unis font exhumer le corps de leurs ancêtres pour essayer de retrouver leurs origines. Donc il y a aussi toute une question interhumaine. Mais ça, c'est pas du fossile, hein, c'est juste du passé récent. J'ai entendu qu'on projetait de faire réapparaître une espèce de loup ou de chien, je ne sais plus de quelle époque. Est-ce que ça, c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est une possibilité proche? Et quelle problème éthique ça pourrait poser?
Votre réponse sur ces questions éthiques que vous n'évacuez absolument pas, Ludovic Orlando, mais vous avez une réponse, enfin des réponses.
Non, les deux derniers chapitres de mon bouquin adressent en partie ces problématiques-là, car évidemment, avec la capacité d'aller lire dans le passé et des nouveaux outils qui émergent aujourd'hui, vous avez entendu parler du prix Nobel de chimie cette année, Emmanuel Charpentier, CRISPR-Cas9, ces fameux ciseaux moléculaires, mais avec la responsabilité de lire, maintenant les outils nous donnent la capacité d'écrire, quoi. Et donc, à quel point
donc
on va s'en limiter, donc
de modifier en tout cas
des messages génétiques que portent les êtres vivants aujourd'hui et peut-être de les transmuer en ce qu'ils furent jadis. Donc, la première chose, c'est en effet, peut-on ? Les outils qui sont disponibles aujourd'hui ne peuvent pas, pour des tas de raisons très complexes, mais en particulier, il y en a une qui est assez triviale, c'est qu'on ne sait pas réécrire l'ensemble du génome d'un être vivant dans le passé, du passé. Tout simplement parce que le livre est beaucoup trop gros. Ces fameux ciseaux moléculaires, ils ont la propriété d'aller modifier quelques mots très ciblés dans certaines des pages, mais pas de la totalité du message génétique.
Donc on ne peut pas faire ressusciter. Bon, les dinosaures, c'est beaucoup trop vieux. Même le mammouth laineux, non.
Le dernier mammouth laineux s'éteint aux alentours d'il y a 4800 ans de cela. Les molécules d'ADN, quand bien même on est capable de les lire, il faut que vous imaginiez qu'elles viennent vraiment comme des mots séparés les uns des autres et pas comme un chapelet, l'histoire écrite de A à Z. C'est-à-dire que leur ordonnancement n'est pas préservé. C'est un travail informatique de repositionnement des mots qui nous permet de faire ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les molécules physiques, celles que l'on a dans le tube à essai, elles sont loin de pouvoir servir comme des chromosomes entiers, si vous voulez. Ensuite, il y a aussi comment mettre en musique cet ADN, parce que évidemment, un ADN nu, ça ne vit pas. Il faut tout un chef d'orchestre qui s'appelle la cellule et qui arrive à donner les ordres, les instructions que donne le vivant pour réaliser ses fonctions.
Donc pour le moment, on ne peut pas.
Donc voilà, peut-on ? Pour l'instant, on peut dire non, fermement à cette question. Mais ce que l'on peut aujourd'hui, cependant, c'est puisque l'on sait lire, on peut, par un jeu de comparaison de textes, essayer de trouver ce qui différencie le plus, mettons, le mammouth de l'éléphant d'Asie, par exemple, et peut-être pour les endroits du génome où ils sont le plus différenciés, se servir des ciseaux moléculaires pour aller réinscrire la version mammouth, si vous voulez, de ces gènes-là, chez des éléphants d'Asie aujourd'hui.
Et donc de fabriquer des éléphants d'Asie qui seraient plus proches du mammouth mammouth que, enfin, qui serait entre les deux. Quoi,
voilà,
finalement.
Des sortes d'OGM d'éléphants mammouthisés, si vous voulez. Donc voilà, on comprend comment ça pose, question, ça, hein. ça pose un travail éthique. Alors il faut savoir que Svante Paabo, qui travaille sur l'homme de Néandertal, n'a pas ressuscité un homme de Néandertal, mais par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a humanisé certaines souris. Il y a des souris qui ont été fabriquées au laboratoire qui portent des variants génétiques de type néandertalien. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est pas du tout pour jouer au docteur Frankenstein, hein. C'est vraiment parce que il y a des choses que la biologie peut prédire en faisant du travail de comparaison des mots, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas tout à fait vérifier. Et donc, il y a que en mettant ça dans des cellules vivantes et en observant les modifications que cela crée sur les cellules, qu'il est possible de vraiment confirmer les effets présupposés. Donc ce travail-là de laboratoire a eu lieu, est en cours. Par contre, on est bien loin, évidemment, de cautionner un travail à grande échelle de mammouthification du monde ou de prenez votre espèce préférée qui est aujourd'hui éteinte et de la ramener aujourd'hui. Alors pourquoi ? Moi, je pense que sur le plan éthique, c'est évidemment très discutable. Mais pourquoi est-ce que sur le plan éthique, ça pose aussi un autre problème ? C'est qu'aujourd'hui, on assiste à une crise de la biodiversité qui est vraiment factuellement établi et qui a des vitesses prodigieuses. Donc, plutôt que d'essayer de fantasmer un outil qui n'est pas encore disponible, vu le peu de temps qu'il nous reste afin de prendre les bonnes décisions, peut-être faudrait-il se servir de ça pour essayer de préserver ce qui reste à préserver. Parce qu'il me semble beaucoup plus simple de parier sur une préservation de choses qui vivent encore aujourd'hui et maintenant, plutôt que de fantasmer dans un éventuel futur l'arrivée de nouvelles technologies qui pourraient nous permettre de ressusciter tout ça.
On préfère vous entendre dire ça, Ludovico Orlando. Ça, c'est le chercheur tout à fait sensé, hein, et au fait des questions éthiques qui parlent. Maintenant, si je m'adresse aux chercheurs un peu plus fous que vous êtes aussi, et pour terminer cette émission, ce serait quoi votre rêve, votre envie? Sur quoi travaillez-vous là? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre au jour, remonter, éclairer dans le passé pour notre présent, là, bien compris?
Alors moi, je vais être monomaniaque, c'est toujours lié au cheval. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a un grand mystère qui reste entier. Aujourd'hui, au 21e siècle, on ne sait toujours pas où et quand le cheval a été effectivement domestiqué pour la seconde fois. Le cheval a été domestiqué deux fois, nos travaux le prouvent, mais la seconde fois qu'on l'a fait, c'est celle qui a créé le cheval moderne, celui que vous voyez encore aujourd'hui partout à travers la planète. Eh bien, où et quand et qui a fait ça, on ne sait pas pourquoi. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est pourquoi celui-là et pas les autres.
Vous viendrez nous dire quand vous aurez percé ce secret-là, Ludovico Orlando, on vous espère. En attendant, je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, vraiment. L'ADN fossile, une machine à remonter le temps, préface de Jean Guilaine, paru aux éditions Odile Jacob. À bientôt, Ludovico Orlando, vous revenez quand vous voulez.
Avec plaisir.
Autour de la question à réécouter tout l'été sur les bonnes ondes de RFI avec les rediffusions des meilleurs moments de l'année écoulée. Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres interrogations à partager. Merci, chers amis auditeurs et internautes, pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Où que vous soyez sur Terre, à l'écoute de la Radio Mondiale, c'est l'heure de retrouver votre journal.